Chapitre 4. C'est plus ou moins à cette période qu'a eu lieu l'assassinat de Mr. Dursley. Robert F. Dursley était un détenu, autrement dit un criminel qui s'était fait pincer par la police, ce qui explique pourquoi il avait fini en prison. Et comme il avait des choses graves à se reprocher, les juges l'avaient condamné à perpétuité, c'est-à-dire la prison à vie. Le fait est qu'une nuit, il a réussi à s'échapper de l'endroit où il était enfermé depuis quelques années. C'était un coup de maître, il faut croire. Il a trouvé, je ne sais où, un clou bien long et l'a planté dans le cou d'un gardien. Pendant que celui-ci s'écroulait par terre, Dursley lui a volé ses clés et s'est faufilé jusqu'à la cour de la prison. Là, il s'est glissé sous une plaque d'égout et a disparu dans les entrailles de Chicago comme une souris. Les flics ont aussitôt donné l'alerte et se sont lancés sur ses traces. Au bout de quelques heures, ils l'ont retrouvé dans une ruelle, mort et refroidi. Quelqu'un l'avait tué. À l'époque, on n'avait évidemment pas entendu parler de lui, mes amis et moi. On ne savait même rien de Chicago et du reste. Mais en un sens, c'est cette nuit-là que tout a commencé. Si Mr. Dursley était resté sagement dans sa cellule, il ne nous serait certainement rien arrivé, et j'aurais profité de l'été sur le canoë que je venais de construire, point final. Au lieu de quoi, il s'est évadé avant d'être assassiné de 3 balles au niveau du cœur. Ce qui a déclenché tout le reste. Comme disait toujours le révérend Thompson à nos cours de Bible le dimanche, on ne peut pas changer le passé. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce qu'on fait. Une fois que le vase s'est brisé, on ne peut plus recoller les morceaux. Pendant ce temps-là, avec Eddie, Joju et Mine, on se contentait d'attendre. Il fallait un petit moment avant que notre commande arrive jusqu'au bureau de Walker & Dome, la société qui publie le catalogue. Mais on ne se doutait pas que ce serait si long. La première semaine, lorsque M. Queneau a recommencé sa tournée du courrier, on a hésité à le suivre pendant tout son parcours, maison par maison, Julie et moi. Mais en voyant que le facteur n'empruntait pas le sentier qui conduisait à ma ferme, on a eu le cœur en miettes sous le coup de la déception. La semaine suivante, ça a été pire encore. Maman m'avait collé sur les bras une mission impossible, aidé Petit Deux et Chuck à construire un nouvel enclos pour les oies. Comme j'étais le plus petit, mes frères faisaient tous les trucs amusants. Ils coupaient le bois, ils sciaient les planches, tandis que moi, je devais courir de tous les côtés pour leur passer la hache, les clous ou le marteau. Avant l'heure du déjeuner, M. Queneau a débarqué dans notre ferme sans crier gare, en disant qu'on avait du courrier. J'ai couru récupérer le paquet avant que quelqu'un s'en aperçoive, mais maman avait déjà bondi hors de la cuisine. C'était fichu. Seulement, ce n'était pas le colis du catalogue, mais juste une lettre de tante Anne qui vivait à Bâton Rouge. Résultat, c'est aussi moi qui ai dû la lire à ma mère et passer toute l'après-midi à écrire une réponse interminable et ennuyeuse au possible. La troisième semaine, on a voulu croire que ce serait la bonne. Hélas, M. Queneau n'a pas pointé le bout de son nez. La quatrième non plus. La cinquième, il a apporté une autre lettre de tante Anne. Un après-midi, j'ai confié à Eddie et Joju. Cette vieille baderne nous a roulés, je parie. On était au bord du bayou en train de pêcher, les pieds dans l'eau pour nous protéger de la chaleur, car cela faisait des années qu'on n'avait pas vu un printemps pareil. Mine était tout près de nous et jouait avec des cailloux colorés. Quand il avait formé toute une pile, il en retirait un délicatement et le posait à côté par terre. Puis il en posait 2, puis 3, puis 5, puis 8, et finalement les autres d'un coup, il les regardait d'un air perplexe, poussait un de ces mugissements dont il avait le secret et rassemblait tous les cailloux avant de recommencer, toujours dans le même ordre. « Il est incroyable, ton frère, » a commenté Eddie. « On dirait presque qu'il sait compter. »« C'est peut-être vrai, » a admis Joju. « C'est difficile de deviner ce que Mine sait faire, parce qu'il ne parle pas beaucoup. » Brusquement, j'ai donné un coup de pied dans l'eau du marais et soulevé une cascade de gouttes brillantes. « Moi, je dis qu'il ne sait pas parler. Et puis, vous m'écoutez quand je parle ?»« Ce vieux gâteux de Queneau nous a roulé. Je suis sûre qu'il a repéré la lettre que j'avais glissée dans son sac et qu'il a empoché le $5 sans même envoyer le courrier à la Nouvelle-Orléans. » « Mais non !» a bougonné Eddie en mettant un brin d'herbe dans sa bouche comme si c'était un cigare. « C'est illégal, je crois. Je veux dire, les facteurs sont obligés d'expédier le courrier. S'ils ne le font pas, ils risquent même d'être arrêtés. Les postes gardent notre grande nation unie. C'est mon père qui le dit. »« En plus, notre lettre n'est pas une lettre normale, non ?» a renchéri Joju. « C'est vrai. On ne l'a même pas remise à M. Queneau. On l'a simplement glissée dans le tas. »« Peut-être qu'il avait le droit de l'ouvrir et de garder les sous. » Elle n'avait pas tort, mais cela ne l'a pas empêché de grommeler. « Peu importe. Demain, je compte bien lui tendre un guet-apens. Je vais l'attendre juste à la sortie du village, lui sauter dessus, l'attraper par la chemise et l'obliger à me donner le pistolet et plus vite que ça.
Oui, bien sûr, a dit Eddie.
Pourquoi bien sûr?
Parce que Queneau est vieux, mais il est quand même plus fort que nous. À mon avis, il te passera un sacré savon.
Et quand tu rentreras chez toi, ta mère va sûrement t'en passer un autre.
J'ai réfléchi à la question. Effectivement, je n'avais aucune envie que ma mère me donne des coups de ceinturon ou pire que mon frère Chuck s'en charge à sa place.
Alors on n'a qu'à lui tendre un guet-apens ensemble. Josu arrêtera la charrette et moi, je sauterai d'un arbre pour prendre les rênes. Toi, Eddie, tu n'auras qu'à lui mettre un sac sur la tête pour qu'il ne voit pas qui nous sommes.
Mais si je lui mets un sac sur la tête, il me verra forcément.
C'était du Eddie tout craché, toujours se défiler au meilleur moment.
Tout à coup, Julie s'est relevée d'un bond.
Mine, viens ici tout de suite, et vous, sortez de l'eau.
En me concentrant sur le dédale d'ombre et de lumière du bayou, je me suis aperçu que la surface de l'eau se brisait en deux à un jet de pierre de l'endroit où on était. Elle dessinait une longue silhouette sur le marais. C'est là qu'ont surgi deux yeux doucement arrondis, un nez et un long museau,
un alligator.
Avec Eddie et Joju, nous nous sommes écartés en attrapant Mine par la main. Les alligators sont de gentilles bêtes la plupart du temps. Ils mangent des souris et des serpents, sans s'occuper des affaires des autres, sauf quand ils sont affamés. Celui face à nous avait tout l'air d'être une belle femelle bien robuste, et c'était la pleine saison de la ponte. Or, il vaut mieux éviter de chercher les noises à une femelle alligator qui protège ses œufs. Et si je vous le dis, vous pouvez le croire.
« Son nid est dans les parages, vous pensez ?» a chuchoté Julie.
« J'en suis sûr et certain, » s'est exclamé Eddie. « J'avais l'impression d'entendre des voix tout à l'heure. Les œufs essayaient de me parler. Je suis certain qu'il me conseillait de faire attention. » J'ai failli lui coller un coup de poing dans le bras. Ce n'était pas le moment de se mettre à raconter des bêtises. J'ai suggéré. Moi, je crois qu'on devrait la suivre et voir où elle va. Si le nid est près du refuge, il faut qu'on le sache pour ne pas être dans le secteur.
Oh, on aurait tout aussi bien pu approcher en catimini et profiter de l'absence de l'alligator pour lui voler un œuf.
On n'aurait eu qu'à le couver nous-mêmes. Le petit serait né, on lui aurait donné à manger. Il aurait pensé que c'était nous, ses parents, et il nous aurait aimés de tout son cœur, comme les poulets de Spalding que notre copain Louis avait gardés lorsque les œufs avaient éclos. À partir de là, les poussins l'avaient suivi partout. Le fait est qu'on s'est mis à marcher. On s'est mis en marche. Peu d'après, on a vu la bête sortir du marais et se frayer un chemin au milieu des buissons, près de la zone des sables mouvants. J'ai avancé de quelques pas, mais j'ai entendu un bruissement et une espèce d'oraclement de gorge. Il valait mieux que je reste à l'écart si je ne voulais pas me faire mâchonner une jambe, ou pire.
« C'est bon, laisse tomber l'alligator. Alors demain pour le guet-apens avec Monsieur Queneau, vous êtes partant ?»
Ils étaient partants. Mais tout bien réfléchi, on a jugé qu'attaquer directement Monsieur Queneau n'était pas une bonne idée. Je devais trouver une excuse pour bloquer la carriole plus ou moins à la hauteur du croisement de Saint-Just. Joju et Eddie profiteraient de la diversion pour monter dedans et se cacher. Le moment venu, ils attraperaient le facteur phare derrière en lui plantant un manche à balai entre les omoplates. Ça pouvait très bien passer pour le canon d'un fusil. Là, ils lui demanderaient où était passée notre lettre. Comme ça, Queneau ne nous soupçonnerait même pas. Il penserait à un brigand de passage.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce matin-là, j'ai avalé un petit déjeuner copieux. Je suis vite sortie pour changer l'eau des bêtes et j'ai pris la tangente à la première occasion. J'ai couru jusqu'au village carrément sans m'arrêter. En arrivant au croisement, j'ai vu un ruban rouge accroché à une branche. C'était le signe que Joju et Eddie étaient arrivés et qu'ils étaient cachés dans les parages. J'ai attendu un moment avant d'entendre le bruit d'une charrette un peu plus loin. Je me suis alors laissé tomber par terre en me tenant la jambe à deux mains et j'ai poussé des mugissements étouffés, de vrais cris de douleur. Au fur et à mesure que la charrette approchait, je me suis mise à crier de plus en plus fort, comme si on m'avait égorgé. Des pierres du sentier se plantaient dans mon dos en me faisant un mal de chien, et j'ai même fini par pleurer pour de vrai. De quoi rendre la scène réaliste au possible.
« Qu'est-ce qui t'arrive, gamin ?» a demandé Monsieur Queneau en tirant les rênes de son vieux canasson. Je les regardais avec de grosses larmes dans les yeux. Je n'en savais rien, j'étais tombée, j'avais dû me casser une jambe. Comme le facteur n'était pas un mauvais diable, il est descendu jeter un œil. Au bout d'un moment, il a gratté son front ridé sous son chapeau et lancé « Mais dis voir, tu ne serais pas petit trois, le fils de Madame Chevalier, par hasard ?»
C'était bien moi.
« Alors attends, je vais t'aider à monter dans ma charrette. Je me rendais justement chez ta mère, je dois lui remettre un paquet. »
« Un paquet ?» j'ai demandé.
Tant pis pour ma fausse douleur à la jambe.
« Quel genre de paquet ?»«
Ça vient du catalogue de Mr. Walker, » a répondu Queneau. « Il est arrivé ce matin par la diligence.
Mais pour le retirer, il faut verser 2 $ et 10 cents. J'ai eu comme des étincelles dans les yeux. Sauf qu'à ce moment-là, je n'avais pas l'argent sur moi. Et là, c'est le moment qu'a choisi cette andouille d'Eddie pour sauter à l'avant de la charrette en compagnie de Joju. Je ne m'étais même pas rendu compte qu'ils avaient grimpé à bord. « Qu'est-ce que vous faites là, vous ?» a demandé le postier en braillant comme un possédé. « On a atterri dans la charrette par erreur, on a glissé de l'arbre, » a dit Joju. « Et puis on a pile $2 et 10 cents, » a renchéri Eddie en sortant nos pièces de la poche. « Comme ça, vous pouvez donner le paquet à petit 3 et vous évitez de faire un détour par la ferme. »« Elle est bonne, celle-là. Et comment se fait-il que t'aies $2 dans la poche, Eddie Brown ? Tu les as volés à quelqu'un ?» Ed a rougi, mais Joju s'est empressée d'intervenir comme elle seule savait le faire. « C'est le docteur Brown qui nous les a donnés, pour qu'on achète un sac de riz et un sac de sucre au village, en lui ramenant la monnaie, évidemment. Mais si Ed prête l'argent à petit 3, Madame Chevalier le remboursera à la ferme, hein, petit 3 ?» Je me suis hâtée de confirmer que c'était la vérité, qu'on se rendait justement chez moi quand je suis tombée, que ma mère avait déjà les $2 et 10 cents sous la main et qu'Ed était très gentil de me les prêter, car ça dispenserait Monsieur Queneau de faire un long détour sous cette chaleur. Cette fois, le vieil homme ne comprenait plus rien. Ce soleil écrasant le faisait réellement transpirer, tellement transpirer que sa chemise était toute tachée de sueur. « Au fait, tu n'avais pas la jambe cassée tout à l'heure. »« Je vais mieux, on dirait, » me suis-je exclamé. « La douleur a presque disparu. » Et pour montrer que c'était vrai, j'ai sautillé sur place. Il a fallu quelques instants supplémentaires pour le convaincre, mais pour tout dire, M. Queneau lui-même n'avait guère envie de venir jusqu'à la ferme. Cela aurait énormément rallongé son circuit et il avait une foule de choses à livrer ce jour-là. Du coup, après nous avoir recommandé plusieurs fois de ne pas faire de bêtises, il a fini par empocher l'argent et m'a demandé de signer un morceau de papier avant de prendre aussitôt le chemin de la plantation des La Fontaine. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau que le colis du catalogue. C'était une petite boîte entièrement recouverte de papier bis. Dessus, il y avait plein de timbres colorés et une grande étiquette qui représentait la fameuse map monde traversée par la voie ferrée, avec l'inscription « Les prix les plus bas ». Dépensez bien votre argent, remboursement garanti. Il était un peu plus léger que prévu. Eddie a tout de suite essayé de le secouer pour sentir ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je l'en ai empêché. Tu ne veux pas qu'un coup parte par accident quand même? Il y a un revolver là-dedans, n'oublie pas. Il n'est sûrement pas chargé. Avec les revolvers, on ne sait jamais, lui ai-je fait remarquer. On a couru jusqu'au refuge, même si Julie a d'abord insisté pour passer chez elle prendre mine. Pendant qu'on l'attendait, avec Eddie, on a allumé toutes les bougies qu'il y avait dans la cabane, et peu importe s'il faisait grand jour. C'était un moment solennel et on avait besoin d'un peu d'ambiance. « Et voilà, » dit Julie, en apparaissant sur le pas de la porte avec mine. « Qui ouvre le colis maintenant ?»« Moi, forcément. » Après tout, il y avait le nom de maman sur le papier. Mais Eddie a protesté qu'on avait mis le nom de ma mère parce que j'étais le seul qui n'habitait pas au village, et aussi parce que la mère de Joju ne recevait jamais de courrier. Finalement, on s'est un peu disputé, et on a décidé d'ouvrir le paquet ensemble. Sauf que ce n'est pas facile d'ouvrir un paquet à 3, loin de là, et puis le papier était si beau que ça nous faisait de la peine de le déchirer. Alors on a essayé de dénouer la ficelle et de tout déballer sans rien abîmer. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en carton encore plus belle que le paquet. Cette fois, je sentais la sueur dégouliner jusque sur mes yeux. J'ai murmuré « Préparez-vous, les amis. Voilà notre revolver. » Et j'ai ouvert le couvercle. Seulement, il n'y avait aucun revolver dans la boîte, mais une montre, une vieille montre à gousset.